Salut, ici Denis Talbot.
Frank the Tank.
Ian Richards.
De l'émission Radio Talbot. On espère que vous aimez l'émission que vous écoutez en ce moment. Ça s'appelle Réalité Augmentée avec JB Gagné, Luc Desormeaux et Daniel Carosella. C'est pas les meilleurs, mais sont sympathiques. Et j'espère qu'ils vont nous payer.
Shut up and take my money!
Salut tout le monde, bienvenue dans la réalité augmentée, la techno à un autre niveau. Votre animateur Jean-Benoît Gagné, encore une fois cette semaine, je suis dans le siège du conducteur et c'est avec plaisir que cette semaine on aura un invité avec nous. Mais avant, j'accueille mes collaborateurs, Luc Desormeaux, bonjour!
Salut Jean-Benoît, le conducteur, mais bon, on sait qu'on quelqu'un conduit, mais on sait jamais où est-ce qu'on s'en va.
Si on prend le chat, c'est peut-être de ma faute.
Bien, sûrement, sûrement.
On a aussi avec nous Daniel Carosella, dit Dieu.
Hey, écoutez, faites-vous donc plaisir là, en ce début de show, puis dites-le que je vous ai manqué la semaine passée.
T'étais pas là la semaine passée.
Hein?
Ben non, je t'avais à manger de la...
Non, mais t'es partout. T'es toujours avec nous.
Oui, c'est vrai. Je suis tellement une source d'inspiration inépuisable.
Ça va être le fun à soir.
Oui.
Et avec nous, on a un invité, Patrick Tellen, qui est l'hôte du podcast Les Jeux sont faits et aussi créateur de jeux vidéo. Bonjour Patrick.
Bien le bonsoir, ça va?
Ben oui, très très bien. Toi de ton côté?
Très bien. Puis ma foi, je suis honoré donc d'être à votre émission, donc ça va deux fois mieux.
Yeah! Patrick, premièrement, présente-toi un petit peu, là. Tu travailles où? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ce projet-là, là, que ce podcast, les jeux sont faits?
Bon, tant de questions, si peu de temps, on va essayer d'y aller de manière concise.
Étant toi, mais regarde-toi.
Très bien. Si on commence avec le côté professionnel, c'est... Bon, je m'appelle Patrick Tellen, je suis de profession concepteur de jeux.
Okay.
Fait que je sais pas, dans gang, tout le monde sait-tu grosso modo qu'est-ce que fait un concepteur de jeu?
Ça conceptionne des jeux.
C'est incroyable, t'as compris. Non, donc,
c'est pour ça qui mène le show, c'est lui l'intelligent de la gang.
Donc c'est ça, mais au cas où que les personnes sont peut-être moins familières, le concepteur de jeu, c'est souvent celui en début de projet qui sort les idées à propos du jeu, c'est-à-dire l'histoire, qu'est-ce que le joueur va pouvoir faire, qu'est-ce que vont être les challenges du dit jeu. Si on préfère un parallèle en fait avec la construction d'une maison, on est l'équivalent de l'architecte. Donc on fait les plans au début, puis ensuite on fait le suivi avec l'équipe de production pour s'assurer que la vision est maintenue et qu'à la fin qu'on ait un produit amusant et stimulant pour l'esprit. Donc, c'est ça. En ce qui me concerne, je m'en vais vers ma 8e année. J'avais, en termes de cheminement professionnel, j'avais eu la chance de commencer chez un studio tout jeune à l'époque qui s'appelait Binox, qui, entre-temps, grossit un petit peu.
Une petite affaire.
Ouais, juste un petit peu. Et donc, j'avais commencé testeur là-bas parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, moi, j'avais commencé début 2000, il n'y avait pas encore ça, les écoles de jeux vidéo. Donc, souvent, la bonne vieille manière... De progresser, c'était de commencer testeur, apprendre le métier un peu. Ensuite, si tu avais l'air sérieux dans tes démarches, tu montais comme designer, puis ensuite, tu fais travailler, sortir des idées pour les jeux, et ainsi de suite.
Tu montais les échelons,
ouais. Ouais, c'est ça, grosso modo. Puis bon, c'était bien parce qu'à l'époque, Binox commençait à grossir. Il y avait une ouverture à l'interne quand même pour prendre les talents. Tu sais, c'est pas juste si t'avais beaucoup de diplômes, t'étais considéré, mais si t'avais l'air d'avoir une volonté puis une rigueur, t'avais ta chance. Et j'ai fait mon petit bout chez Binox. J'ai fait en fait deux jeux et un quart. Le et un quart, en fait, c'était la pré-production de leur premier jeu de Spider-Man.
OK.
Et ensuite, j'ai décidé de diversifier un peu parce que Binox, eux autres, se penchaient surtout sur les jeux de console. Et entre-temps, il y avait un truc qui commençait à se développer qui s'appelait les téléphones intelligents.
OK. Ouais.
De quoi de petit, là?
Ouais, de petit. Et au début, on disait « Ah, ça pourrait potentiellement être riche en possibilités. » Tiens donc. Donc, ce côté-là m'a intéressé. Et aussi, à l'époque, quand j'étais très, très jeune, j'aimais beaucoup mon Game Boy. J'aimais la notion de pouvoir amener les jeux avec toi, d'avoir des jeux beaucoup plus simples à comprendre, que tu sais, tu peux ouvrir, jouer, fermer. Puis tu sais, c'est assez facile à comprendre, c'est facile à consommer et tout. Donc, j'ai décidé de passer chez IA Montréal, qui avait une division spécialisée dans le jeu mobile. Et là-bas, encore une fois, j'ai fait trois jeux. jeux. Pour donner des idées, souvent chez EA, c'était plus prendre des propriétés des jeux consoles et ensuite les transférer vers les iPhones, iPad et compagnie. Comme dans mon cas, j'ai travaillé à apprendre Rock Band, transférer ça sur un iPad, ce qui était un bon challenge, partir d'instruments de plastique et mettre ça sur une tablette.
C'est pas recommandé avec les bâtons du drum, hein, par exemple. C'est pas une bonne idée.
Non, mais tu serais surpris à quel point qu'on a joué avec cette idée-là, finalement, on a laissé faire parce qu'on avait bien peur pour des iPads cassés.
Tu mettais un pad par-dessus, ça ressemblait à une batterie. Tout, tout, tout. Merci.
Vu une couple de vidéos de monde qui pétait le TV avec une manette de Wii, puis il a dit, peut-être qu'on va laisser faire.
Ouais, c'est ça, on va apprendre de ces exemples-là, et un peu extrêmes. Et aussi, après ça, je m'avais quand même attaqué à un titan de genre. Là. C'est un de mes derniers mandats chez EA, ça avait été d'adapter Tetris pour iPhone. Donc, il faut se rappeler, Tetris, c'est un jeu côté contrôle qui est assez demandant. Mm-hmm. Et c'était de transférer ces contrôles-là très manuels vers le tactile. Et bon. Ça a quand même bien été. Ensuite, pour ceux qui sont un peu au courant de l'industrie montréalaise, EA, ça a mal été un peu. Donc, éventuellement, j'ai eu plus d'emploi. Fait que pendant un bout, j'ai fait un petit peu de cheminement personnel, j'ai fait des projets personnels, j'avais commencé à sortir d'autres idées, j'ai fait un peu de consultation et aussi l'idée des jeux sont faits était un peu sortie à cette époque-là. C'est que entre-temps, j'avais aussi découvert ce nouveau merveilleux médium qui était le podcast.
J'espère que t'attends pas après le podcast payer ta maison, hein. Je dis ça de même, là.
Ah, shit!
J'espère que tu fais ça pour le fun.
J'espère que t'as un plan B.
Ouais, non, absolument. C'est pour ça que je travaille encore en jeu. Mais dans ce temps-là, c'est que je trouvais qu'il y avait déjà une belle offre du côté québécois, tout ça. Surtout en jeu vidéo, c'est déjà très varié, mais ça me turlupinait qu'il n'y a personne qui parlait de création. Donc, j'ai tranquillement pas vu, j'ai bâti cette idée-là, mais dans le temps, j'avais pas le matériel, je faisais attention à mon argent, donc je me suis assis un peu là-dessus. Puis bon, il y a à peu près moins d'un an, j'ai joint Hibernum Création, qui est une boîte qui fait des jeux, encore une fois, dans l'espace mobile. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'on a beaucoup de partenariats avec des grosses marques, des grosses compagnies. Comme récemment, le dernier jeu que j'ai fait avec eux autres, ça s'appelle Mixel, et ça a été un partenariat avec une petite compagnie de jouets qui se nomme Lego.
OK, un start-up, là.
Ouais, c'est ça. Là, le Kickstarter est vraiment prometteur, donc c'est à suivre. Et sinon, il y avait Cartoon Network qui s'est impliqué là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour moi d'un côté créatif, c'est de vraiment dire, OK, bon, je travaille un 6 mois avec Lego, après ça, je travaille un 6 mois avec un autre client, et ainsi de suite. Donc, depuis ce temps-là, je suis dans cette compagnie-là.
Es-tu encore avec eux? Parce que dernièrement, ils ont fait quand même la manchette avec une grosse prise.
Oui, absolument. Donc, on a continué. Je continue avec eux. Puis, effectivement, il y a une grosse motivation à l'interne pour développer notre côté affaires, développer aussi notre côté crédibilité en termes de créateurs.
Il y a Stéphane Dastou qui a annoncé il y a 2 semaines qu'il se joignait à l'équipe d'Hibernium à Création. Donc, tu sais, c'est une grosse prise. Ça, c'est un gros brain dans le domaine.
Oui, parce qu'absolument, si on regarde la feuille de route de ce type-là, on a encore une fois des petits studios du genre Ubi Montréal, Eidos Montréal. Donc, je pense que le gars a appris beaucoup. Puis, déjà à date, on voit l'impact de son travail dans la compagnie. Donc, il y a des belles choses, d'après moi, qui vont se présenter pour Hibernum Création.
OK. Ouais. Puis, il est super sympathique, Stéphane, en plus.
Absolument. Donc, c'est ça, super parlable. C'est pas parce qu'il y a eu une bonne feuille de route qu'il en impose pour autant.
Non.
C'est ça. Et bon, ayant un peu plus de stabilité dans ma vie, j'ai décidé de réitérer avec ce projet de podcast-là. Donc, il y a à peu près un mois et demi, j'ai invité deux de mes anciens collègues de travail de l'époque de Binox à peut-être lancer ce projet-là pour justement, je pense, c'est d'abord faire découvrir l'envers du décor côté jeu, parce que, en tout cas, à date, il n'y a pas une grosse job qui a été faite là-dessus. Côté film, il y a tout le temps le classique du making-of qui est sur le DVD, donc le monde commence à s'informer du processus. Mais en jeu vidéo, ça n'a pas été encore beaucoup, beaucoup couvert. Et puis, surtout sur le côté francophone, il n'y a pas vraiment de cette présence-là. Donc, on a décidé de bâtir Les Jeux sont faits, puis de faire notre mieux pour vulgariser le développement de jeu et expliquer aux gens, bon, des fois ils trouvent des affaires bizarres dans les jeux, c'est d'expliquer un peu le pourquoi et le comment.
Chose que vous faites quand même bien, vous avez 4 épisodes au moment où est-ce qu'on se parle d'enregistrer. Est-ce que vous commencez à prendre vraiment votre rythme?
Oui, absolument. C'est sûr qu'encore une fois, vu le sujet, et on a eu beaucoup de questionnements au début. C'est-à-dire, on veut que des gens de l'industrie l'écoutent, donc on ne doit pas trop vulgariser, mais en contrepartie, on aimerait beaucoup prendre l'exemple des jeunes de 15-16 ans qui envisagent de travailler en jeu, puis tu sais, de les initier à ça tranquillement, pas vite, faire créer une passion entre eux. Donc, il faut faire attention à quel point qu'on est très technique dans nos descriptions.
Puis, il doit falloir se faire attention aussi parce que tu peux pas vraiment parler d'un jeu en cours de développement parce que c'est souvent gardé secret, puis tu veux pas nécessairement divulguer trop d'informations non plus.
Ouais, absolument, c'est une balance. C'est sûr qu'on a eu des discussions au début parce que, bon, aussi, tu sais, des fois, on voit des décisions un peu bizarres dans l'industrie, puis bon, je suis pas sûr que c'est la meilleure idée de commencer à pointer du doigt un développeur puis de dire ce qu'ils font, ben, c'est tout croche. Donc, effectivement, si on a tracé une ligne au début, je crois, date, on danse assez bien autour, mais bon, c'est un questionnement constant parce qu'en même temps, on veut donner une information non biaisée à nos auditeurs.
Mm-hmm. Ouais. Des fois, c'est difficile de jongler avec les deux.
Ouais, non, mais même.
Vouloir dire la vérité le plus possible, puis pas pouvoir, nécessairement.
Non, c'est ça. Tu sais, même de ton côté, je veux dire, mettons, quand tu es dans la presse aussi, c'est super difficile de dire. Tu vois aussi les gens qui sont très enthousiastes, qui ont mis beaucoup d'efforts là-dedans. Fait que tu veux pas être le gars qui démolit tous ces efforts aussi.
Ouais, c'est fait.
Patrick, petite question. Bon, il y en a beaucoup qui. Une pour commencer, puis tu vas voir, vu que c'est une question intelligente, ben, en tout cas, ça va prendre toute la place. Ouais, c'est ça, je vais essayer de vous surprendre. Bon, il y a beaucoup de gens qui savent que je suis quand même un vieux de la vieille, même si je suis pas si âgé que ça. Mais je me rappelle des débuts de EA Montréal.
Oui.
À l'époque, EA Montréal couvrait un étage au niveau du building de la place Ville-Marie. Et plus la compagnie a progressé, plus le studio s'est étendu au point où la division mobile, à un moment donné, avait pris un autre étage. Donc, oui. C'était rendu, je pense, Playfish. Quand tu faisais ton historique, ça me surprenait un peu que tu aies été remercié. Je savais que la division qui développait des jeux plus conventionnels entre guillemets allait pas très bien. Là, Army of Two a pas tourné comme on pensait, puis Dead Space 3 non plus. Fait que mais j'étais quand même assez surpris au niveau de la division mobile. Est-ce que d'un point de vue interne, est-ce que ça allait si mal que ça? Est-ce que parce que ça m'avait l'air à très bien aller là, tu sais, quand tu dis que tu prends pour une division de ton studio un étage complet là, c'est je suis un peu surpris.
Et moi donc.
OK, c'est bon.
Non, il y a beaucoup de choses à considérer là-dedans. Il y a beaucoup de pièces mobiles, et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Ah là là, je suis bon.
c'est comme un jeu de mots, là. C'est un jeu de ski, c'est là, hein? C'est ça.
C'est ça. Je lance le bal ce soir.
Fallait me le dire, moi, je ne catch pas ces affaires. Je ne suis pas assez brillant, excusez.
Ouais, oh là là. Mais si on en regarde tout de suite en partant, le marché mobile, bon, ça va, moi dans ma tête, ça va faire à peu près 7 ans que ça roule à cause du iPhone. Donc, il faut se rappeler, en partant, c'est un marché nouveau. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui arrivent. Il y a des notions, des fois, au début, on dit, on se rappellera toujours de la compagnie Zynga qui, à peu près 2 ans, c'était la fin du monde. Ça valait beaucoup d'argent. Puis bon, maintenant, en tout cas, je suis plus sûr que c'est le cas. Donc, c'est un marché qui a beaucoup changé en termes d'attente au niveau des produits, au niveau des attentes financières aussi. On se cachera pas, chez EA, ça coûtait quand même assez cher développer un jeu mobile parce qu'on impliquait des grosses marques comme Tetris, Rock Band. Juste pour donner une idée, Rock Band, il faut payer la licence de Rock Band, il faut payer toutes les licences de musique. Donc, vas-y.
Non, ben je me rappelle parce que écoute, ça fait pas très longtemps, là, peut-être 2-3 ans gros max, que j'étais allé rencontrer le producteur du jeu Scrabble.
Oui.
Pour iPad, iPhone pis tout. Fait que ça aussi, c'est quand même une grosse licence là, pour Hasbro. Fait que j'imagine que là-dessus aussi, quand vous avez développé, ben je sais pas si toi tu y as participé, mais au niveau de Scrabble, il faut quand même payer des royautés qui doivent pas être donné non plus.
Non, c'est ça. Et d'après moi, éventuellement, le calcul qui est arrivé du côté d'EA, parce que EA, il faut se rappeler, c'est une compagnie publique, ils doivent avoir de bons résultats financiers. Ça a été un stade que ça coûtait, on va prendre l'exemple de Scrabble, ça devait coûter très cher avoir licence. Peut-être avoir une équipe à Montréal, contrairement à d'autres places dans le monde, c'était peut-être un peu dispendieux aussi. Et faut aussi se rappeler que, bon, c'est une compagnie américaine, donc peut-être justement les intérêts canadiens, c'est pas les plus importants à leurs yeux. Donc, c'est peut-être un mélange de tout ça, mais bon, quand on a eu notre mise à pied chez EA, un sentiment était très clair, c'est pas par le fait que on avait merdé, on n'avait pas livré un bon produit, c'est que les conditions à l'interne de EA avaient changé probablement.
Mais c'est plate parce que vous avez fait les frais finalement de décider. Ben, en fait, je pense que vous avez fait de la bonne job. Mais vous avez été licencié pour des décisions ou en tout cas un contexte qui avait peut-être rien à voir avec vous non plus. C'est plate.
Oui, c'est plate, sauf que justement, qu'est-ce qui est intéressant de boîtes comme Hibernum, maintenant, il y a des boîtes qui grossissent à Montréal puis ils vont chercher ces gens-là d'expérience, donc ces gens-là travaillent à nouveau. Donc, normalement, quand tu fais bien ton boulot et bon, t'es rigoureux, t'as deuxième, une troisième chance. Donc, en général, je m'inquiète pas pour les gens.
Parce que le c'est quand même un univers qui est petit, là, veux pas. Tout le monde à Montréal, au Québec, qui travaille dans le domaine du jeu vidéo se connaît et, bon, on le sait, des fois, il y a des décisions qui sont prises à l'extérieur. Qui implique des gens qui ben méritent pas d'être coupés puis qui vont être pêchés ailleurs. Là.
Non, absolument. Puis c'est pas juste au Québec. Si vous êtes un peu au courant de qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, les dernières années ont été très difficiles parce que bon, il y a beaucoup de questionnements par rapport à est-ce que les consoles c'est encore valable, est-ce que les plateformes mobiles vont tout remplacer, et ainsi de suite. Et c'est sûr, ces ambiguïtés-là ont un effet aussi sur la prise de décision dans les compagnies. Et après ça, il y a des répercussions un peu poches du genre Disney qui coupe 700 emplois en jeux vidéo et ainsi de suite.
Ouais, non, mais c'est pas drôle, c'est pas... Ben, il y a eu Sony aussi qui a coupé, entre autres, je pense qu'il y a eu 3 studios britanniques récemment là qui ont été coupés par des vagues massives, en fait, qui ont fait l'objet de vagues massives de licenciement. Donc, mais je sais pas au niveau du marché des consoles, tu vois, juste au niveau... Excusez, c'est pas vraiment une question, là. Je m'étale et je discute.
Plus une opinion, là, c'est ton affaire, là.
Non, c'est plus un monologue, dans le fond. je m'écoute. Je m'écoute, puis j'aime ça. Mais, tu sais, je regarde juste au niveau du marché canadien. J'étais censé en parler la semaine passée jusqu'à temps que le rhume me frappe de plein fouet. Mais la hausse de 50$ de Sony au niveau du marché canadien pour la PS4, je suis pas sûr, moi, que ça va aider ce marché-là qu'on considère maintenant comme étant fragile. Avec la popularité des plateformes mobiles, je trouve que au niveau des plateformes dites conventionnelles, on prend peut-être pour acquis que les joueurs vont toujours finir par se tourner vers ça, tandis que le marché des plateformes mobiles représente un facteur à considérer, puis à un moment donné, à force de presser le citron sur les joueurs. Il y a peut-être un danger qu'on voit disparaître nos consoles, là. Ça serait dommage parce que je pleurais.
Non, puis aussi, il faut regarder des mouvements qui se passent dans l'industrie actuellement. Il y a certaines personnes qui n'ont pas trop peur de ça, mais on regarde l'initiative de la Steambox ou Steam Machine, je devrais dire, chez Valve, qui, grosso modo, veut créer une expérience console dans le contexte d'un PC. Ça aussi, ça pourrait être éventuellement un danger pour le marché console. Donc, il faut faire attention avec l'idée de vendre des boîtes assez dispendieuses et des jeux à coût de 60$. Là.
As-tu l'impression, toi, qu'il vit de l'intérieur, Patrick, que l'industrie est en train d'atteindre sa maturité? Où on est encore en pleine crise d'adolescence?
Très bonne question. Je pense que oui, on est en fin d'adolescence, en fait. L'époque du cégep, grosso modo. Donc,
on fait de la drogue, puis on couche avec plein de monde, c'est ça?
pas chez Hibernum, en tout cas. Je peux pas dire les autres compagnies, là, mais... Non, plus sérieusement, notamment, il y a eu le GDC récemment pour vous expliquer, c'est une conférence de développeurs où des développeurs se rencontrent et parlent du métier. Et il y a eu quand même beaucoup de discussions sur comment améliorer, exemple, la condition de la femme dans l'industrie, comment éviter le temps supplémentaire, comment mieux gérer les projets, quand, mettons, il y a des licences d'impliquer. Donc, il y a définitivement une volonté à l'interne d'améliorer comme l'expérience de développement, la vie au travail, tout ça. Donc, moi, je crois qu'il y a de l'espoir. Je crois que c'est en train de maturer. Sauf qu'on est dans une industrie qui est tellement dépendante et liée à la technologie, ça va être constamment en mouvement, donc je crois qu'il va y avoir tout le temps ce travail-là d'équilibre à faire, donc ça va.
Ben, écoute, tu me permets de... Tu viens de me donner un flash. Les fins de projet.
Oui.
J'en ai vu, OK. juste une petite anecdote. À l'époque, quand j'étais sur Hard Gamers, c'était dans mes débuts sur Hard Gamers, j'étais allé voir Strategy First. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette compagnie-là. C'était un... Strategy First... Ben, je sais pas, toi, t'as de l'air, mais mes comparses, ils ont pas de l'air.
Non, mais pour le bénéfice de tout le monde, là. Oui, moi, je connais ça, là, mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, là.
Mettons,
JB, que je m'adresse à toi qui ne connais pas ça.
Je suis porte-parole pour la populace.
Oui, absolument. OK. T'es porte-parole pour l'ignorance?
Pour la populace, pour les gens qui connaissent pas ça et qui veulent apprendre.
Pour ceux qui ignorent, c'est quoi?
Non, pour la soif d'apprendre.
OK, c'est beau. Strategy First, à l'époque, c'était une compagnie, je crois, qui a débuté à Montréal. Je sais qu'ils ont eu des bureaux à Ottawa à un moment donné, mais je pense que ça a débuté ici. Et ils ont, entre autres, lancé la série Disciples. Donc, moi, j'appelais ça Disciple, en bon français. Il y a eu deux volets, je pense, de Disciples. C'était une bonne série de stratégie. Après ça, ça a un peu dévié vers du n'importe quoi. Il y avait Prince of Quinn, qui était correct, mais sans plus. Puis après ça, c'est devenu une compagnie qui a distribué un peu n'importe quoi, là. Tu sais, des jeux pour enfants qui étaient super mal faits. Et il y avait aussi... puis d'ailleurs, c'est là où je veux en venir. J'étais à l'époque allé voir Strategy First pour un jeu, je me rappelle plus du nom, mais c'était un jeu spatial sur lequel ils fondaient beaucoup d'espoir et qui a planté pas qu'à peu près. Ah oui, mais vraiment solide, là. On fondait, tu sais, il y a Star Citizen, je pense, qui s'en vient, de Behavior, puis sur...
Chris Robert,
c'est ça. Les attentes étaient à peu près de ça, là, tu sais, au niveau du jeu du Strategy First, parce que Disciple avait connu beaucoup de succès et on s'attendait à avoir un gros, gros succès. Mais le jeu a pas pogné, là. C'est un jeu spatial 4X, là, pour ceux qui connaissent ça. Fait que, dans le fond, tu sais, il y avait gestion d'économie, exploration, puis les deux autres, que je me rappelle plus. Fait que, j'avais vu à cette époque-là le producteur du jeu. Et il était en fin de production. Le jeu allait passer gold. Et ça faisait 18 heures qu'il était au studio. Il avait à peine mangé. Il disait qu'il voyait plus sa famille. C'était quelqu'un qui s'en allait tout droit serrer la main de l'ami La Dépression. Il était plus capable et je l'ai vu là, de mes yeux vus, il y avait des cernes et je me demandais est-ce que c'est encore présent des situations, moi je qualifie ça des situations d'horreur, là. C'est pas drôle, là. C'est du temps supplémentaire, c'est beaucoup d'énergie. Puis je me doute que les gens tombent malades par après. Est-ce que c'est encore présent dans les cycles de développement des fins de production aussi intenses que ça puis aussi prenantes?
Malheureusement, oui, j'en entends parler de temps en temps des productions, mais à la fin, bon, c'est un petit peu serré, les gens sont passionnés, ils essaient de faire le meilleur jeu possible. Quand ça fait aussi 5 ans, exemple, tu travailles sur un jeu, tu veux le dernier coup, tu veux le donner, donc oui, effectivement, ça existe encore. Sauf, comme j'ai mentionné tantôt, en tout cas, comme j'ai dit, moi, je m'en vais vers ma 8e année, j'ai vraiment remarqué une très grosse amélioration à ce niveau-là.
OK.
Donc, c'est un travail de conscientisation qui doit être fait partout dans le studio. C'est sûr que les producteurs qui, eux autres, normalement, sont les gestionnaires, s'occupent de l'horaire, des budgets, tout ça, font beaucoup plus attention à ça maintenant. Les clients aussi, parce qu'il faut se rappeler, exemple, si tu fais un jeu basé sur un film. Tu sais, mettons, il y a un film de X-Men qui s'en vient, il y a un jeu qui est basé là-dessus. S'il y a des trucs qui changent dans le film, tu dois les changer dans le jeu, et des fois, ces changements-là arrivent tout le temps au mot t'as dit dernier moment. Donc, ça t'amène encore dans une situation que tu dois faire d'over time. Et ça, c'est bien parce que de plus en plus, les entités externes qui travaillent avec les développeurs de jeux commencent à mieux comprendre ça. Donc, aussi, ils se donnent des deadlines de dire, OK, aux derniers 2 mois, bon, on arrête de demander des changements et on y va avec ce qu'on a, puis on le polie, puis ensuite on le sort. Donc, ça s'améliore. Il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, le monde a l'air vraiment motivé à vouloir aider ça éventuellement.
Good. J'ai une dernière question. Après ça,
c'est pas.
Écoute, c'est juste au niveau d'une citation que j'avais vue de Eiji Aonuma, qui est le producteur de la série Zelda, qui avait dit que lui, ce qu'il voit depuis qu'il a commencé à concevoir des jeux vidéo, c'est que depuis l'époque où il a commencé et en ce moment, Il dit que les joueurs en veulent toujours plus et que c'est de plus en plus difficile de les satisfaire. Donc, je voulais avoir un peu ton opinion de toi, de concepteur de jeu, ce que tu pensais par rapport à ça.
C'est effectivement le cas, mais encore une fois, je pense que c'est une question de temps, de diversification du marché, et ainsi de suite. L'exemple de Nintendo est intéressant parce qu'il faut se rappeler à l'époque de la Wii, il y a beaucoup de personnes qui chialaient à propos de Nintendo en disant « Bon, ça y est, eux autres développent juste des jeux pour les matantes, les grands-mères, et ainsi de suite. » Ce que Nintendo essaie de faire, c'est tout simplement de diversifier leur public. Donc, j'ai l'impression, en essayant de toucher des publics plus vastes maintenant, on fait peut-être un moins bon boulot à, tu sais, comment je pourrais dire, creuser en profondeur pour aller chercher un public en particulier. Parce qu'il faut se rappeler, dans le temps, mettons, de la Super Nintendo, tout ça, c'est pas mal juste des enfants et des adolescents qui jouent aux jeux vidéo. Mm-hmm. Tandis que maintenant, avec des trucs comme Wii Fit, moi, si je joue à Wii Fit, j'ai sûrement des attentes face à un jeu vidéo qui sont différentes de ceux de ma mère, et ainsi de suite. Donc, déjà ça en partant qui change la donne. Deuxièmement aussi, c'est on commence à avoir aussi des personnes, ça doit faire une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, qui jouent à des jeux vidéo. Donc, ils en ont vu pas mal des nouveautés, des nouveaux concepts, et ainsi de suite. Donc, j'imagine aussi ces personnes-là qui ont beaucoup d'attentes par rapport au jeu, ben ces attentes-là montent constamment et bon, tu dois les impressionner de plus en plus. Puis il y a un stade, c'est un peu dur de couvrir toutes les bases.
En même temps, il y a une spécialisation aussi dans les goûts des gens. Dans le sens que, tu sais, plus t'en as connu, plus tu sais précisément ce que tu recherches comme clientèle. Puis ça, ben, tu sais, quand tu es un créateur de jeux vidéo, ben, je suppose que ça devient aussi un point de départ. Là, quel marché on vise? Oui, des fois, il y a des surprises, comme la Wii a été une surprise. On est en mesure d'aller chercher plus que ce que le marché semblait nous laisser présager. Sinon, de l'autre côté, tu sais, un Final Fantasy, tu sais très bien que tu n'iras pas chercher le gars qui est un amateur féru de jeux de soccer, tu sais.
Non, absolument. Une remarque intéressante à voir, c'est souvent les jeux qui réussissent le mieux, les compagnies qui réussissent le mieux, c'est effectivement des compagnies qui se limitent puis qui admettent que bon, ils font un jeu pour une clientèle cible. Blizzard, par exemple, oui, ils font maintenant des trucs très accessibles avec Hearthstone et ainsi de suite, mais il faut se rappeler, Blizzard, l'essentiel de leur cheminement, là, je veux dire, il y avait une clientèle assez précise. Là. Si t'aimes pas les Space Marines et les elfes, pas sûr que tu vas avoir du fun avec Blizzard.
Non, c'est assez à la base de leur fanbase. Patrick, je veux qu'on parle un peu là, de maintenant, tu es comme passé du côté obscur de la force, tu es rendu aussi dans les médias par rapport à ton emploi de concepteur de jeux vidéo. Qu'est-ce que tu en penses des critiques de jeux vidéo? Parce qu'avant ça, tu devais le voir comme 100% dans le domaine du jeu vidéo, mais là, maintenant que tu as un pied dans le domaine des médias, comment tu perçois les critiques?
En fait, j'ai un secret à vous dire. Dans le temps que je travaillais chez Binox, j'avais eu la chance de travailler avec François Tadel, que je ne sais pas si certaines personnes
connaissent. Oui, qui est chez Binox actuellement.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il m'avait laissé la chance de faire de la critique pour qu'est-ce qui était joué à l'époque. Donc, j'avais eu quand même la chance de commencer à faire de la critique tout. Donc, j'avais été quand même dans les shorts d'un gars de média où est-ce que, tu sais, bon, tu te retrouves avec un jeu, faut que tu le critiques, faut que tu dises ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais. C'est vraiment une dualité intéressante parce que je savais très bien comme développeur pourquoi des fois certains jeux virent mal. Mais en même temps, il y avait comme une espèce de devoir par rapport à ton lectorat d'être objectif, de dire la vérité selon toi, et ainsi de suite. Ce qui m'aide beaucoup actuellement, pour être honnête, parce que, et ce qui est un peu à la genèse de la mission de Les Jeux sont faits, c'est-à-dire que, oui, on en regarde quand même l'industrie avec une certaine rigueur et un certain angle critique, sauf quand on arrive à ce point-là où on explique pourquoi on n'aime pas quelque chose, on donne aussi en même temps l'information qui explique le pourquoi de la chose probablement. Donc, c'est vraiment intéressant, je crois, pour le grand public de reconnaître d'abord que quelque chose n'est pas bon, mais de savoir aussi qu'est-ce qui a peut-être amené les développeurs à faire ça.
Parce qu'en même temps, tu en as parlé au début de l'entrevue, il y a multiplication des podcasts sur le domaine du jeu vidéo. Donc, oui. Vous avez multiplication des sources de critiques par rapport oui. à ce qu'il y avait dans le temps. Comment vous voyez ça? T'sais, le Québec, oui, on achète beaucoup de jeux vidéo, mais en même temps, on chiale pas mal dessus. T'sais.
Oui, absolument. Ça, c'est parce que je dois t'avouer aussi, je fais quand même attention, je lis pas une tonne de critiques parce que en tout cas, surtout dans les médias de masse, on regarde les IGN, GameSpot, ça revient du pareil au même souvent. Donc, sauf qu'il y a quand même des tribunes qui sont intéressantes côté critique. Puis je pense que c'est côté, mettons, si on est média en jeu vidéo actuellement, je pense que c'est plus important de se trouver une niche. C'est pour ça que nous autres, exemple, on parle de développement de jeu. C'est pour ça que si on en regarde sur le côté anglophone, bon, il y a des podcasts qui parlent de jeux, mais peut-être plus de jeux de stratégie. Donc, en tout cas, je pense pour le bien de l'offre médiatique en jeu vidéo, ça serait peut-être de regarder, bon, c'est quoi les territoires inconnus? Est-ce qu'il y a une spécialisation qui est digne d'intéresser des gens? Puis de partir sur cette lignée-là.
Note à nous-mêmes de la réalité augmentée qui pitch partout, c'est précisé.
C'est pas un reproche, mais bon, je pense que ça, tout le monde bénéficierait de cette approche-là.
Je veux qu'on parle un peu sur le plan gamer, parce qu'à la base, tu dois apprécier le domaine du jeu vidéo si ça t'a intéressé. Je vais prendre un petit peu la méthode de faire de mon collègue Luc qui avait son podcast Histoire des gamers qui retraçait le vécu des joueurs les plus connus. C'est quoi qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du jeu vidéo en tant que gamer, en tant que jeune adepte?
Vu qu'on parle en termes de jeu, en termes de, je sais pas, de concept ou...
Ce qui t'a attiré, là, c'est ce à quoi tu jouais, ce qui aujourd'hui a encore une influence sur ton travail.
Bon, absolument. Bon, on a parlé de Zelda tantôt, c'est sûr, ça m'a frappé assez jeune et même à l'époque, ça me fascinait juste l'idée d'avoir cette espèce de monde gigantesque-là dans un petit morceau de plastique. Donc, ça, c'est sûr, en partant, j'avais vraiment aimé ça. C'était très riche côté jouabilité. Ton personnage évoluait vraiment de manière concrète. Il y avait une belle histoire, tout ça. Puis, en tout cas, pour un enfant de 7 ans, il y avait beaucoup de contenu. Ça prenait du temps, ça t'occupait beaucoup. Donc, pour moi, c'était une très grosse influence. Un petit peu dans ces mêmes cordes-là, après ça, mon jeu préféré reste encore Pokémon Bleu et Rouge, que à bien des niveaux, j'ai trouvé profondément brillant. D'abord, c'est un très bon jeu de rôle, c'est accessible. Moi, je regarde ça comme des ananas, puis je trouve ça très adroit, parce que je vois autant des garçons, des filles qui peuvent être intéressés de jouer à ça. Mais aussi, il y avait, c'est un peu bizarre à dire demain, mais je pense que c'était l'ancêtre des jeux sociaux. Dans la mesure où est-ce que tout le monde avait son Game Boy, tant qu'il y avait un ami qui avait un corps, ben il y avait possibilité de jouer ensemble, ouais. De jouer contre, de partager, tout ça, c'était très riche en termes d'interaction entre les joueurs. Ça se rapprochait beaucoup de l'expérience de la cour de récré, mais là, en plus, t'avais un jeu avec des monstres imaginaires.
Ben, c'est puis un peu comme, tu sais, mettons, les cartes de hockey, où, tu sais, moi, j'ai tel bonhomme, toi, tu l'as pas, ah, puis il est tel niveau, tu sais, check ses capacités, tu sais, il y a cette compétition-là en dehors de l'univers du jeu, là.
C'est ça. Et encore une fois, ça me fascinait dans la mesure que, bon, t'as un Game Boy, c'est vraiment pas gros, mais t'as comme plein de bêtes dans ce morceau de plastique-là. T'as un monde au complet à explorer, réexplorer, ainsi de suite. Donc, ça m'avait beaucoup impressionné. Et finalement, peut-être plus sur le côté mise en scène, tout ça, personnellement, le premier Metal Gear Solid m'avait vraiment mis sur le derrière, là. Donc, c'est... Bon, chez moi, on aimait beaucoup le cinéma, donc moi, j'aimais beaucoup les jeux vidéo. Ça a comme été un pont entre ces deux univers-là qui étaient... Ben, on le regarde ça maintenant, ça a l'air un peu bizarre, mais à l'époque, qui était vraiment réussi, il y avait des belles qualités de production. C'est aussi la première fois que je trouvais qu'il y avait comme la culture japonaise et nord-américaine qui cohabitaient bien ensemble, puis ça marchait vraiment bien. Donc, ça, c'est clair pour moi, ça a été très marquant, puis ça a encore des effets dans mes choix professionnels maintenant.
Il y a encore donc des notions de ces différents jeux-là qui aujourd'hui t'influencent quand tu fais le concept d'un jeu.
Absolument, parce que c'est aussi une notion, des fois, quand on rentre dans l'industrie du jeu, en tout cas, moi, de mon côté, c'est le même, c'est que je veux redonner un peu ce que j'ai reçu pendant mon enfance, pendant mon adolescence. C'est aussi une raison pourquoi je suis dans les médias maintenant, puis ça risque de faire sourire Daniel, mais bon, pendant mon adolescence, je lisais des sites comme Québec 64, tout ça, et je pense que ça avait d'ailleurs été tes premières armes dans le domaine médiatique, Dan.
Ouais, ça a été le premier site auquel j'ai collaboré. Je faisais le courrier des lecteurs.
Donc, sûrement j'ai envoyé 2-3 lettres d'ailleurs à te gratter la tête en gardant ça. Désolé, 20 ans plus tard.
Je t'en veux pas.
OK, moi, j'étais pas le pire de la gang, par exemple. C'était bien.
Non, mais à l'époque, je sais pas si tu te souviens, c'était Xdrox.
Oh, OK, non.
Non, tu te souviens pas de ça. Moi, je m'en souviens pour y avoir répondu, ben, des fois.
OK. Mais c'est des trucs qu'à l'époque, bon, ça me faisait rire, c'était bien, mais ça a développé aussi cette passion-là, cette manière d'analyser le jeu-là. Donc, tu sais, je dois beaucoup à ces sites de médias-là. Donc, quand je parlais un peu des adolescentes qui ont 16 ans, qui regardent pour une carrière, tout ça, c'est encore une fois, c'est de remettre ça, là, tu sais, bon, OK, moi, j'appréciais ça à l'époque, ça m'a fait triper sur un domaine qui me rend vraiment heureux professionnellement maintenant. Ça serait peut-être bien que j'en fasse de même.
Donc, Patrick, merci beaucoup pour ta participation à la réalité augmentée de cette semaine. Longue vie à toi personnellement, mais aussi à ton projet de podcast. Les jeux sont faits, dont tu es l'animateur. Et 4 épisodes jusqu'à maintenant, mais déjà, on sent une belle qualité. Puis c'est un beau produit à découvrir pour les gens qui ne le connaissent pas encore.
Un gros merci à vous. Puis vous aussi, continuez dans votre continuité. C'est fantastique.
Même si on n'est pas assez précis, hein, on le sait bien.
Ah non, regarde, c'est pas reproche, mais bon, je dis ça pour votre bien. C'est une critique constructive. Voyons ça de même.
Un gros merci, Patrick.
Merci.
Donc, merci. Si tu veux rester avec nous autres, Thibaut, on t'accueille. On va poursuivre avec tes différentes chroniques. Sinon, ben, on te libère. C'est comme tu le sens.
Je vais continuer la marche avec vous autres, messieurs.
OK. Les garnements, ça, c'est mes deux collaborateurs. Ça vous tente, on pourrait y aller avec les fails de la semaine. On n'a pas fait ça au début. Je voulais comme tout de suite y aller avec l'invité de se débarrasser du plat du show.
C'est parce qu'il est encore là, hein, juste de même.
Oups.
Oups.
Mais non, Patrick, il sait que je niaise. Hein, Patrick, tu le sais, hein?
Je vais arrêter de pleurer et on s'en parle.
Okay, mais dis-toi une affaire, Patrick, c'est que toi, t'es là aujourd'hui. Nous autres, on deal avec lui à toutes les semaines.
Ouais, j'avoue.
Prends ça, puis tu vas peut-être pleurer un petit peu moins.
Moi, je suis même masochiste, je vais y parler en privé sur Facebook.
Ah ouais, en plus.
Ouais,
on finit par m'apprécier, ça a de l'air. Le syndrome de Stockholm, ça ouais, ressemble à ça. Fail de la semaine, j'en ai deux pour vous autres. Premièrement, on a tellement eu de fun avec le simulateur de chèvre que quand j'ai vu passer cette nouvelle-là, je me suis dit, faut que j'en parle. Il y a un Kickstarter qui vient d'être complété, une campagne qui a fonctionné. 29 500 $ pour compléter et valider le projet. On a amassé plus de 42 000 $. Et le jeu en question, c'est un simulateur d'ours, Bear Simulator. Donc, c'est mon fail de la semaine parce que je me dis, OK, les chèvres, c'était déjà drôle parce que tu te dis, il n'y a rien à faire en attendant qu'une chèvre. Mais là, on passe au next level. T'es un ours, puis pendant 6 mois, tu pourras pas jouer. Parce que tu vas être en train de dormir.
Ouais, c'est concept, mais au moins, c'est quand même un peu plus d'action que le simulateur de chef. Tu peux aller attaquer un camping, tu sais, vider des paniers de pique-nique, tu sais. Moi, rajoute Yogi Bear. Oh, simulateur, puis je l'achète.
Moi, il y a une question. D'ailleurs, je vous jure que ça a fait l'objet de discussions à ma job. Là. On a des discussions aussi profondes que ça au dîner. Évidemment, ils sont entamés par moi. Avez-vous remarqué que toutes les teddy bears ont des chandails? Ben, pas toutes, là, mais en tout cas, il y en a beaucoup.
Oui, souvent.
Mais jamais de pantalon.
Ouais.
Parce qu'une quéquette d'ours, tu caches pas ça. Ça a de l'air.
C'était mon commentaire. Fait que je veux savoir, moi, si dans ce simulateur-là, il va avoir un t-shirt, mais pas de pantalon.
Ben, son concept va avoir des pantalons, mais pas de t-shirt.
C'est ça.
Les premières images qu'on voit du jeu, c'est que tu vois juste les deux pattes d'en avant, comme un shooter, que tu vois les mains avec l'arme, mais là, c'est juste les pattes, puis je sais pas, tu peux peut-être grimper aux arbres, on a très, très peu d'informations. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'on hiberne? Est-ce qu'on a le droit des différentes sortes d'ours? Ours blanc, ours brun, les grizzlies, les carcajou, on a-tu... je ne sais pas, je veux savoir, est-ce que ça sera en DLC l'ours polaire? Je veux savoir.
Le panda.
Le cousin, je ne sais pas. tant de questions, si peu de, si peu de réponses.
Un sujet donc, si palpitant.
42 000 piastres pareil, les gens sont fous de même.
Ouais, c'est... Moi, je dis, à quand le simulateur de marmotte?
Oui, pour prédire le printemps, puis tout le monde a le goût de te gonner après, parce que tu...
Ça va être un stealth game, tu sais, il va falloir que tu évites les chasseurs.
C'est ça, tu vas prédire le printemps, puis après ça, tu vas avoir comme un compteur qui va descendre, vas-y, dans 30 secondes, vous allez savoir si vous avez eu raison ou pas, puis là, ça va être marqué « Run! Run! » Puis là, c'est comme un Battlefield, mais t'as pas de gun, puis faut que tu te sauves en courant.
Exact. Hey, autre fail pour cette semaine, ça aussi, ça m'a marqué, ça a circulé pas mal sur les réseaux sociaux, c'est le remake. En fait, je sais pas si c'est un remake, mais en tout cas, c'est dans la franchise des Wolfenstein. C'est Wolfenstein The New Order Panzerhand. Déjà, c'est un nom très, très long. Deuxièmement, on nous présente une édition spéciale avec 100$ de contenu, figurines, des posters, des images, des patchs, genre que tu peux, après ça, coudre sur tes vêtements, des photos, tu sais, le petit guide, la statue avec les articulations qui sont amovibles, la boîte en métal, tu sais, la grosse patente. Mm-hmm. Sauf que le problème, c'est que cette boîte-là est vendue 100$. Ça va à peine, c'est pas si cher que ça. Le gros problème, c'est que le jeu ne vient pas avec le Collector Edition.
Je m'en allais dire ça comme niaiserie, mais ils doivent pas mettre le jeu dans la boîte à ce prix-là. Puis tu confirmes.
Il n'y a pas de jeu. On a vu maintenant des Collector Edition de ce genre-là avec le jeu, mais en version téléchargeable. Là, on a passé à la prochaine étape. Pas de jeu. Fait que tu peux avoir tous les cossins alentour, mais tu ne joueras pas au jeu. Il va falloir que tu débourses en plus pour l'avoir.
Ben non, ce qu'ils vont faire, ils te vendent la boîte 100$. Puis là, tu sais, ils veulent contrer le piratage. Fait qu'ils te vendent 100$ de cochonnerie. Puis ils te donnent un lien torrent pour downloader ton jeu.
Génial.
Ils disent, de toute façon, vous allez le faire. Fait que voilà 100$ de cossin qui va ramasser de la poussière. Puis si tu veux vraiment jouer au jeu, voilà le lien torrent.
Donc, je trouvais ça très, très drôle de voir qu'on t'est rendu là. On offre des jeux vidéo, pas de jeux vidéo.
Des jeux, pas de jeux. Le jeu est en DLC pour un autre 49,99.
Exactement.
Je te dis.
Daniel, t'avais un petit clin d'œil pour nous autres cette semaine à propos de Dark Souls.
Ouais, ben j'ai pas vraiment de fail. Je sais pas si c'est un fail, tu sais, l'achat de l'Oculus Rift par Facebook. Je sais pas où ce que ça va mener, fait que j'osais pas le catégoriser comme fail. Mais
voir les statuts de mes amis Facebook en réalité augmentée, puis en hey, ça serait tellement hot.
Non, le retour de la réunion de secondaire, mais en réalité virtuelle, c'est très prometteur.
Ouais.
J'adore, moi j'adore. Non, mais c'est comme tu dis, Jean-Benoît, j'avais un petit clin d'œil. D'habitude, j'aime pas ça parler de soit des jeux que je reçois, des jeux que je reçois, oui, mais en critique. Mais tu sais, j'aime pas ça me dire ce que je reçois vraiment, parce que, tu sais, c'est une forme de vantardise, puis j'aime pas ça.
Ouais, t'aimes pas ça de plugger, là.
Ben non, vous savez bien que je niaise quand je me vante.
Surtout quand t'es le seul dans le gang qui en reçoit pis ça écœure les autres. Tu veux pas tourner le fer dans plein.
Non, c'est ça, tu sais. Mais non, j'aime juste pas ça. Tu sais, je me considère privilégié d'être supporté par beaucoup, beaucoup de compagnies. Donc, j'essaie de pas étaler ça. Sauf que j'ai mis sur Twitter, ceux qui me suivent sur Twitter l'ont probablement vu, le goodie que j'ai reçu avec Dark Souls 2. Et je trouvais que c'était un goodie qui était super bien fait et qui était vraiment approprié de la part de Bandai Namco. En fait, le goodie que beaucoup de journalistes ont reçu, c'est une balle anti-stress en forme de tête de mort. Pourquoi je trouvais ça super bien fait? C'est parce que, de un, la tête de mort, ça représente Dark Souls parce que tu fais rien que crever dans ce jeu-là. Mm-hmm. Mais vu que tu crèves, ça t'écœure. Vu que ça t'écœure, il y a de la colère en toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pognes ta balle anti-stress puis tu presses.
C'est génial, ça. C'est concept.
J'ai vraiment... tu sais, il n'y a pas d'ironie, là. Je trouve ça vraiment sympathique comme petit goodie envoyé aux journalistes. Puis en plus, elle est toute douce.
Ouais, mais elle est toute douce. Pour la prochaine, là, en forme de manette.
Ouais, que tu pourrais pitcher ses murs. Puis,
voilà.
Ce serait cœur, ouais. Hein?
En forme
mais écoutez, je trouvais que c'était un beau clin d'œil à Dark Souls. T'sais. De un, tu t'envoies un objet qui catégorise bien le jeu, t'sais, c'est-à-dire la mort. Puis de deux, ben tu contres ton stress et ta colère qui monte en jouant, en pesant ton goodie. Donc j'adore vraiment beaucoup.
Pourquoi pas? Je trouve ça bien pensé. Donc beau petit clin d'œil, c'est le fun ça. Ouais. Si t'en as d'autres, n'hésite pas. On n'est pas obligé de juste souligner le mauvais. On peut souligner le bon dans l'industrie du jeu vidéo.
C'est de plus en plus rare. Tu sais, on parlait avec Patrick de l'évolution du jeu vidéo. Mais au niveau du journalisme, je dirais que je vois de moins en moins de goodies. Quand j'ai commencé, il y a de cela longtemps, on se tentait beaucoup de séduire les journalistes. Hein. On envoyait beaucoup de goodies. Mais c'est devenu une pratique de plus en plus rarissime.
Comme un vieux couple marié.
Je m'embarque pas là-dedans. Moi, je suis dans un vieux couple, je m'embarque pas là-dedans.
Ah, tu fais bien, tu fais bien. Luc, vu que le temps avance, tu nous as proposé de nous parler d'un jeu de société, un jeu de table, une découverte que tu as fait avec ta petite famille chez vous, un genre de Monopoly, mais repensé.
Ouais, c'est drôle parce que c'était la fête de mon fiston en fin de semaine passée. Puis, c'est ça, on a... Bon, il a reçu de l'argent, tu sais, puis tout. Puis là, la première affaire qu'il voulait s'acheter, c'était des Skylander, puis des Skylander, puis des Skylander. Puis là, Activision puis Binox sont bien contents que mon gars veut des Skylander, puis des Skylander. Mais mon gars, il a une boîte en plastique plein de Skylander. Puis là, tu regardes la boîte, puis tu dis, tu sais, à un moment donné, ça va devenir la guitare de Guitar Hero à un moment donné, tu sais. Ça servira plus à rien, même si les figurines sont super belles. Tu sais, peut-être d'autres choses, ça serait le fun. Fait que je pars magasiner avec mon fils. Là, je vous compte page de vie. Je pars magasiner avec mon garçon le dimanche matin. On laisse là, maman. Hein, oui.
Vous avez découvert dans les magasins qu'il y avait des triples swaps de Skylanders. Des figurines en trois morceaux que tu fais mixer en triple. C'est
à
ça,
trois
là.
Étages. Non, pas du tout. On arrive au magasin, dont je nommerai pas le nom. Et puis, là, il commence à se magasiner des Skylanders, puis tout ça. Puis là, on dit, ben, gars, on va faire le tour du magasin. Tu sais, t'as reçu de l'argent pour ta fête. Tu peux peut-être t'acheter d'autres choses que des Skylanders. Et là, on tombe sur un jeu de Monopoly. Mon gars, il a 8 ans, puis ça fait déjà 2 ans qu'on joue au Monopoly avec lui. Bon, on aide à compter l'argent, puis tout ça. Mais il aime, tu sais, le concept. Il aime jouer à ça. Et puis, c'est un Monopoly qui s'appelle Monopoly Empire. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette version-là de Monopoly, mais c'est très approprié pour apprendre à un enfant à jouer à Monopoly parce que les règles sont beaucoup plus simples puis les parties sont beaucoup plus rapides. Là. Normalement, en date d'une demi-heure, la partie est finie puis on recommence, on okay. fait d'autres choses. C'est pas comme le vrai Monopoly où faut se planifier un week-end, puis des collations, puis peut-être amener un sleeping bag chez des amis. Ça, on va jouer au Monopoly parce que ça finit plus. Donc, c'est simple, c'est 4 joueurs maximum. Il y a Monopoly Empire, ce que c'est bon, on a la même table que d'habitude, c'est pas les mêmes terrains que d'habitude. Au lieu d'être des terrains, c'est des méga compagnies ou des marques de commerce. Donc, je vais vous en nommer une couple. On a Intel, on a Xbox, on a Nestlé, on a Samsung, on a Coca-Cola, on a la franchise de films des Transformers. Bon, pourquoi? Okay. Bonne question.
Fait que là, t'es en train de me dire qu'on brainwash des enfants solides là, avec
ouais,
les
ouais,
jeux.
Ouais, c'est
là.
Ça. On les apprend c'est quoi les meilleures compagnies. on a Bisodio, on a EA, on a Hasbro, comme de raison, parce que Hasbro font le Monopoly.
Oui, c'est clair.
Fait ça, puis on
se
a...
sont-ils donné la marche la plus haute, là, la valeur la plus élevée?
Pas du tout. La non. marche la plus élevée appartient à Coca-Cola et à Samsung. Et puis, on a, qui est l'équivalent des deux bleus, Place du Parc,
ouais.
C'est l'équivalent de ça. On a aussi, bon, c'est ça, Hasbro, on a Yahoo. Fouille-moi pourquoi.
Ça existe encore, ça?
Yahoo. Puis, bon, Paramount, Chevrolet, eBay. Il y a tout plein de compagnies, Dugatti, McDonald's. Donc, on part, puis le but, c'est de compléter ta tour. Donc, chaque personne, chaque joueur, on peut jouer 2 ou 3 ou 4, chaque joueur a une tour en avant de lui, et le but, c'est de remplir sa tour avec les petits morceaux de plastique qui représentent la compagnie.
Okay.
Dépendant de la grosseur de la compagnie, le morceau de plastique est plus haut ou plus bas, donc ça te donne plus de points dans ta tour. Donc, ta tour monte plus vite ou plus lentement, dépendant des petite plaquette que tu achètes. Fait qu'au lieu d'être des maisons que tu rajoutes sur la carte, tu enlèves la plaquette de plastique. Comme, mettons, j'achète Nestlé, j'enlève la plaquette de plastique sur la planche de jeu, puis je la mets dans ma tour. Ça va me donner comme 4 espaces. Donc, ma tour vaut maintenant, mettons, 200, c'est 200 000 $ quand tu es rendu à 4 cases de cachet. Donc, le but, c'est ça. Quand on passe Go, on ne ramasse pas 200 $, on ramasse la valeur de notre tour. Donc, plus ta tour est haute, plus tu ramasses d'argent.
Okay.
Donc, au lieu d'être on achète, on passe go, tu me donnes 200, après ça, on se vend des terrains pour essayer de compléter puis bâtir. Il n'y a pas vraiment de ça là-dedans. Fait qu'on avance, on fait le tour. On a des cartes chance, on a des cartes aussi avec un logo de millions dessus. Les cartes millions vont te donner la chance de bloquer une transaction. Quelqu'un va tomber, mettons, sur McDonald's, il va l'acheter, tu vas mettre ta carte, tu vas dire non, tu l'achètes pas, c'est moi qui l'achète à ta place. Donc, tu peux monter ta tour, même quand c'est quelqu'un d'autre qui joue avec ces cartes-là. Tu peux empêcher quelqu'un de te faire un coup de chien aussi comme ça.
Mais là, mettons là, que je tombe sur Yahoo puis je le veux pas, je peux-tu? Ou,
tu peux pas l'acheter, t'es pas obligé de l'acheter.
Parce que Dieu seul sait que Yahoo t'achète pas ça. Là.
Non, mais ton but, c'est de finir ta tour. Fait que s'il te manque deux cases de haut pour finir ta tour, puis si tu tombes sur Yahoo, tu vas peut-être même vouloir l'acheter pareil. Donc, t'as les cartes chance.
Pas réaliste.
T'as les cartes chance aussi qui vont te donner, bon, des fois c'est des chances, des fois c'est pas de la chance, faut que tu payes, faut que tu gagnes l'argent, perds de l'argent. T'as des cartes qui peuvent te dire tu fais enlever la. Avant de commencer l'émission, je t'avais dit, tu m'as demandé est-ce que c'est le genre de jeu que si tu prends l'avance au début de la partie, tu n'es plus jamais rejoignable après. Tu as des cartes qui disent tout simplement, dites aux autres, tous les autres joueurs, d'enlever leur dernière plaquette du jeu puis de la remettre sur la table. Donc, tu as beau être presque rendu à la fin de ta tour. Si quelqu'un met cette carte-là sur la table, tu viens de redescendre de 3-4. Case parce que ta tour sera plus complétée. Tu es obligé de remettre ta petite plaquette sur sur la planche de jeu. Tu as plein de choses comme ça qui font que les personnes peuvent reculer. Tu peux, une carte qui dit tu peux échanger tu peux échanger ta dernière plaquette de plastique avec la dernière plaquette de plastique de une des autres tours. Toi, tu as un qui prend une case, puis je veux prendre la Samsung qui en prend 4 ou 5. Ben, je te donne une, je t'en ramasse 5, puis je peux gagner la partie comme ça. Fait que ça peut virer de bord n'importe comment. Le stationnement gratuit, quand on tombe dessus, on peut donner 100$, puis on peut décider d'aller sur n'importe quelle case qu'on veut dans le jeu. Donc, on peut finir la partie d'un coup en disant, ben moi, il me manque 5 cases, je m'en vais sur Samsung, j'ai fini. T'sais? Fait que quand tu gagnes les deux, ça te donne, quand tu t'achètes les deux terrains de la même série, comme mettons Samsung et Coca-Cola, ça te donne une plaquette de un morceau en plus, donc ça pourrait être juste ça t'aider à finir ta taupe et à gagner la partie. Donc c'est hyper rapide. On a simplifié les règles, il n'y a pas de 1 piastre puis de 5 piastres puis de tout, c'est des 500, des 100 puis des 50. Il y a juste ces 3 billets d'argent-là, puis après ça on a des dés. Les dés, il y a un dé qui est de 1 à 6, il y a un dé qui est de 2 à 6, puis le 1 est remplacé par un logo que c'est deux mains qui font, qui se donnent, deux mains qui se donnent la main. Là. Puis ça te permet d'échanger avec n'importe qui une plaquette de ton choix pour une plaquette qui est sur sa tour. Encore là, je peux te donner un 1 puis te prendre un 5.
OK.
T'sais, fait que la partie peut virer de bord assez rapidement là-dedans. T'as les taxes. Si tu tombes sur une des taxes, il faut que tu redonnes la dernière plaquette aussi de ta tour. Donc, tu peux perdre un 5 ou un 1, dépendant c'est quoi ta dernière. Puis, il y a un autre taxe que c'est tous les autres sauf toi qui remettent leur dernière plaquette sur le jeu. Fait que ça peut virer de bord n'importe quand. En fin de semaine, on a joué une partie. Je suis sûr que j'allais gagner. Finalement, c'est mon gars qui a gagné à la dernière minute parce qu'il m'a foutu une carte d'en face. Puis, il m'a volé ma plaquette, puis il était en punition dans sa chambre le restant de la fin de semaine. Mais non, c'est vraiment amusant, c'est vraiment le fun. C'est bien pour, comme je disais, initier les enfants au Monopoly parce que les règles sont simples. Oui, comme tu dis, on brainwash les enfants avec les compagnies, mais c'est des compagnies qui connaissent déjà, tu sais. Je veux dire, Nerf pour les ballons de football ou les fusils avec les ventouses au bout. Xbox, ils connaissent ça. McDonald's, ils connaissent ça, tu sais.
Oh, ils connaissent ça pas mal.
Fait que, tu sais, c'est des compagnies qui connaissent. La plaquette de EA, il y a pas de DLC non plus disponible. Fait que j'aurais pensé qu'il aurait donné des petites plaquettes de 1 de DLC, ouais, mais il n'y en a pas. Mais c'est super le fun à jouer. Je veux dire, les parties sont rapides. Fait que vous avez une heure à passer avec vos enfants une fin de semaine, ben vous pouvez jouer une, des fois deux parties de Monopoly Empire, puis tout le monde a une chance de gagner. C'est pas comme bon, on va jouer une game de Monopoly, puis tu sais qu'à la fin de la soirée, il va y avoir une personne dans la gang qui va avoir gagné, tellement que c'est long et pénible à jouer. Si on a simplifié les règles,
tu vas avoir gagné et eu du fun.
Ouais, c'est ça, parce que les autres, on s'entend que tu as réussi à rien acheter. Tu te ramasses avec le petit mauve pâle. tu trouves la soirée longue quand les autres achètent les gros terrains. Fait que tandis que ça, ça peut virer de bord n'importe quand. C'est vraiment plaisant. Puis si je me rappelle, il est comme 25$. Là. Fait que c'est pas super cher.
Ouais, il est commandité, tu sais.
Des heures de plaisir, ouais, c'est ça. Commandité par toutes ces compagnies-là.
La plaquette de McDo, tu peux la mettre dans tes poches, oublier pendant 4 ans, puis elle est toujours fraîche quand tu leur sors de là. Hein?
Ouais, ouais, elle paraît comme un Big Mac, faite dans le même matériel. Même matériel aussi, ouais, même matériel du plastique. Mais non, c'est le fun. Si vous avez un petit jeu, vous cherchez un petit jeu familial, allez vous chercher ça, vous allez avoir du fun.
Yes, donc c'est ce qui fait le tour pour cette semaine, pour la réalité augmentée. On va commencer avec notre invité de la semaine, Patrick. Comment on fait pour te retrouver sur les réseaux sociaux et où est-ce qu'on retrouve ton matériel?
Pour les réseaux sociaux, c'est assez simple. Je vous invite à chercher « Les jeux sont faits » autant sur Facebook que Twitter. On est présent. Qu'est-ce qui est intéressant? On vous avertit à propos des nouveaux épisodes, mais on envoie aussi de temps en temps des nouvelles pertinentes liées à l'univers de la création de jeux. Donc, pour les personnes intéressées, ça peut être un très bon moyen de commencer à découvrir ça tranquillement, pas vite. Sinon, si vous voulez pas vous casser la tête, visitez tout simplement www.lesjeuxsontfaits.ca. Attention, il y a beaucoup de pluriel là-dedans. Et dans ce cas-là, vous allez encore une fois avoir notre blog qui contient les nouvelles qu'on propose sur les réseaux sociaux, mais en plus, on vous propose évidemment les différents moyens d'avoir accès à notre podcast.
Daniel, de ton côté?
Ah, deux moyens. Puis là, ça va être deux vrais moyens. Là.
Une prière?
C'est pas moi qui l'ai amené cette semaine. Moi, je voulais être sérieux cette semaine.
T'es pas sur le bon show.
OK, bon, ben, une prière. En regardant le ciel, vous avez encore plus de chances que votre prière soit exaucée. Sinon, vous pouvez toujours interagir avec moi ou me suivre sur Twitter ou en fait, pas O, mais Adraco ADG. Sinon, sur affairesdegars.com, donc je publie des articles assez régulièrement. J'ai d'ailleurs publié très récemment un article de jeux controversés, donc de jeux offensants, dont j'ai mis le lien aussi sur la page Facebook de Réalité Augmentée. Il y a des jeux là-dedans qui sont de assez mauvais goût, merci. Bref, whatever.
C'est fun à avoir.
Ouais, mais je sais pas si vous vous souvenez du silencieux du jeu Postal.
Ben oui, tu le sais, Daniel, j'en ai parlé dans un article aussi, dans les armes les plus farfelues de l'histoire du jeu vidéo.
Ah, c'était dedans?
Oui, le silencieux.
Je me souviens de tes armes de Saints Row, mais je me rappelais plus que tu l'avais mis.
Oh oui, tu l'avais mis.
OK, d'abord, mon article est pas original. Il a été copié à l'avance par Jean-Benoît.
Si tu veux trop de bonnes idées, viens me voir. Hein.
Absolument. Fait que bref, c'est les deux moyens de me rejoindre, Affaires de gars ou Twitter.
Luc, de ton côté?
Sur Twitter, à Scalazormo. Vous pouvez aussi me lire toutes les semaines sur le site de Kijiji. J'écris des articles sur l'automobile pour eux. Puis ben, vous pouvez aussi m'écouter avec l'autre, là, Jean-Benoît, sur un podcast qui s'appelle Le Podcast Auto. On a recommencé deux épisodes en ligne présentement. Allez voir ça. Ça a changé un petit peu de ton. C'est un petit peu plus léger, même que parfois, sur le dernier show, on a oublié de mettre notre traction intégrale et on a légèrement dérapé. Mais on se fait bien du fun.
Ah ouais, ça arrive. C'est le fun. Faut se le permettre.
C'est le fun d'avoir du fun de temps en temps.
Ouais. Ouais.
Puis toi, JB, là, l'autre, là?
Moi, vous pouvez me retrouver mon compte personnel sur Twitter, @gangj_b. Sinon, ben, je m'occupe des comptes officiels de la réalité augmentée, @realitéhog. Sur Facebook aussi, facebook.com/realitéhog. On a une adresse courriel. Vous avez des questions, des idées, des jeux que vous voulez qu'on teste, des personnes que vous voulez qu'on ait en entrevue ou que vous tentez que vous voulez qu'on tente d'avoir en entrevue, ben, c'est possible. De nous faire toutes ces suggestions-là via notre adresse courriel podcastrealitéaugmentée@gmail.com.
Tu me permets-tu, Jean-Benoît?
Oui, vas-y.
Tu me permets-tu de faire un petit clin d'œil à un auditeur?
Oui, vas-y.
André Hull, donc je sais que c'est un fidèle auditeur du show. Oui, j'avais parlé de Puppeteer dans pas long. Dans,
le prochain show, en principe.
Probablement, ouais.
C'est une demande spéciale. Donc, on fait même ça, des demandes spéciales. On spin ta toune, le grand.
Yes!
Garde la ligne, tu gagnes un t-shirt. Ceci étant dit, merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec moi pour cet autre élément de la réalité augmentée. Merci à tous nos auditeurs et on se dit à une prochaine fois. Salut tout le monde!
Bye!
Bye!
Bye-bye!